Belle chorale, ça! C'est le chœur Allegro qu'on entendait dans Promenade en traîneau, le chœur Allegro qui est dirigé depuis quelques années par Rémi Saint-Jacques. Bonjour, Rémi!
Bonjour!
Ça fait combien de temps que vous faites partie de la chronique, pas la chronique, la chorale Allegro comme chef de chœur?
Officiellement, je dirais que ça fait environ 2 ans.
2 ans. Et ouais. Je sais que les choristes qui y sont, parce que j'ai fait partie de ce chœur pendant quelques années, vous adorent. Pourquoi vous pensez?
Quel drôle de question! Mais pas bizarre, mais...
Qu'est-ce qu'on vous dit?
Déjà, on me trouve patient.
Oui, c'est important, la patience.
Très, pas très important. On me dit souvent justement que j'étais rassurant dans la manière de diriger, qu'on parlait beaucoup de ma clarté. Je veux dire, je suis exigeant, mais je demande quand même des choses très précises.
Ouais.
Mais les gens aiment ça, vraiment.
Et les gens aiment ça, puis il y a beaucoup de gens qui aiment ça parce que vous êtes directeur musical de plusieurs chœurs. Combien à votre compteur?
J'en dirige 5 actuellement.
5? Et oui. Puis hier, il y avait 2 concerts?
Hier, j'avais 2 concerts. Un avec le chœur d'Artémuse à Saint-Lambert. Donc, on faisait un concert semi-privé chez des sœurs religieuses, les sœurs du Saint-Nom-Jésus-Marie dans Ville-Longueuil. Et hier soir, c'était avec le Grand Chœur de Montréal au conservatoire.
Ah, oh, wow! Mmh. Ça s'est bien passé?
Ça s'est super bien passé. Oh, oui.
Les gens aiment ça, les concerts de Noël, hein?
Oui, mais il y en a pour tous les goûts quand même, parce que dans le temps de Noël, c'est souvent quand même assez complexe, parce que vu qu'il y a beaucoup de chœurs déjà juste à Montréal, il y a au-dessus de 300 chœurs, si je me souviens bien, aux dernières nouvelles.
Ouais.
Mais là, tout le monde fait leur concert un peu en même temps, fait que c'est un peu la petite bataille, savoir qui va voir lequel public et tout ça. Mais il y a des chœurs qui font pas de concert de Noël, J'ai un collègue, Cœur Polymny, où est-ce que les autres ils font un concert en fin janvier. Ils passent pas le concert de Noël, mais leur salle est pleine quand même. Là.
Puis est-ce que le répertoire n'est plus de Noël là, à ce moment-là?
C'est ça. C'est pas un répertoire de Noël, mais ça peut être un répertoire à propos pour l'hiver ou proche de la Saint-Valentin, ce genre de choses-là.
Ah oui, c'est bien, c'est une bonne idée.
Ouais.
Et vous, Rémi, vous êtes dans la musique depuis longtemps. J'ai lu que c'est à l'âge de 10 ans que vous avez fait des études en piano. Ouais. Comment vous êtes tombé amoureux de la musique?
C'est quand même particulier parce que ça va paraître ironique, mais quand j'étais enfant, j'aimais pas la musique.
Hein? Comment ça?
Ben, c'est sûr, quand on grandit avec juste deux chansons toute l'enfance puis qu'on comprend pas vraiment...
Ah, il y avait juste deux chansons qui jouaient chez vous?
Moi, j'ai grandi avec Power of Love de Céline Dion puis Hotel California.
Ce sont des bonnes chansons, mais si on les entend jusqu'à plus soif, on peut devenir écœuré, j'imagine.
Exactement, mais surtout, je ne comprenais pas. Puis déjà, c'était dans la période très, genre, très toujours dans le plus haut, le plus fort. Puis moi, ça ne m'accrochait pas.
Ah non?
Non.
La performance vocale, ça ne vient pas vous chercher?
Ben, à ce moment-là, non, pas tant. Personnellement, je ne suis pas impressionné par la quantité autant que par la qualité.
Oui, mais Power of Love, c'était de la performance, mais Hotel California, c'était quand même quelque chose de nuancé un peu plus.
C'était nuancé, mais je pense que ce qui attirait beaucoup les gens, ce qu'on m'a parlé, c'était beaucoup plus la musique, le solo de guitare et tout ça, le ressenti. Mais une fois qu'on regarde les paroles, qu'est-ce que ça raconte, c'est quand même assez sombre.
Intense.
Oui.
OK, assez grave. Donc, à un moment donné, vous avez écouté d'autres choses que Power of Love et Hotel California?
Oui, bien, éventuellement. C'est sûr qu'à 10 ans, j'ai commencé mes cours de piano, mais là, moi, j'ai découvert Bach, Jean-Sébastien Bach.
Oh!
Puis, si je pouvais faire que ça,
C'est votre compositeur préféré?
J'adore,
oui. Oui, on a un point commun. Et ça a été quoi, donc, l'élément déclencheur qui vous a fait vous intéresser à la composition? C'est Bach?
C'est plus par choix personnel. C'est au secondaire. On monte, mettons, 5 ans plus tard. Où est-ce que je voulais... J'étais difficile. J'arrivais pas à trouver quelle sorte de pièce qui m'intéressait. Bon, c'est sûr que j'aimais beaucoup Bach, mais bon, au secondaire, je connaissais pas trop le répertoire. T'sais, je viens pas d'une famille de musiciens, donc il fallait que je tout découvre un peu par moi-même.
Ouais.
Et je me dis, regarde, je trouve pas ce que je veux faire, fait que je vais l'écrire moi-même. Puis j'ai commencé
à composer
comme ça.
Ah oui! Mm. Est-ce que... Quel genre de musique vous composiez au secondaire?
Je veux dire, c'est sûr qu'on va rester dans, mettons, le répertoire classique, tonal, très fonctionnel, avec des accords qu'on pouvait reconnaître. C'est sûr que j'essaie de faire quelque chose de mélodieux, qui soit reconnaissable, qu'on puisse représenter quelque chose. J'aimais beaucoup, justement, de la musique qui raconte une histoire. Même, mettons, sans nécessairement qu'il y ait des mots, parce que c'est arrivé beaucoup plus tard, je composais pour cœur, mais au piano, j'aimais ça, développer une histoire. Donc, d'imaginer une histoire, puis essayer de créer de quoi dans la musique qui pouvait évoquer quelque chose.
Donc une pièce instrumentale, mais qui racontait une histoire, qui proposait des images. À ce moment-là, les gens peuvent interpréter ce qu'ils veulent à partir de la musique qu'ils entendent.
Exactement. Ouais. C'est ça que j'aime beaucoup, la musique classique, la musique instrumentale, c'est que tout le monde peut se faire
sa propre histoire
selon leur propre expérience personnelle. C'est ça que j'adore de ça.
Vous avez fait des études universitaires en composition.
Effectivement.
Oui.
Où? J'ai fait à l'Université de Montréal. Donc, j'ai fait un bac en musique écriture, ça s'appelle. Il y a différents bacs. Il y avait un bac en composition instrumentale, mix, électroacoustique, écriture. Moi, j'étais en écriture. La différence entre écriture et composition, c'est que ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'écriture, c'est beaucoup plus la technique, donc toutes les techniques d'écriture qu'on appelle harmonie, contrepoint, vraiment ce qui s'est fait par le passé, vraiment les techniques de base. Alors qu'en composition, il assumait que les gens qui allaient là, il y avait déjà ces connaissances-là, puis ils développaient d'autres sortes de langages musicaux.
OK, donc vous avez fait les deux.
Ben moi, j'étais en écriture,
parce
que j'avais des outils que j'avais besoin, que j'avais pas à ce moment-là. Mais ça m'a permis de... les deux bacs ont des cours d'écriture et des cours de composition. C'est juste que composition, ils focusent beaucoup plus sur la composition et l'écriture beaucoup plus sur les techniques de base.
Est-ce que vous composez tous les jours? Mais là, vous avez moins le temps parce que vous êtes aux prises avec vos chorales. Bien, c'est une façon de parler, là,
oui.
Mais...
Hey, je compose pas tous les jours parce que ça va puis ça vient. C'est pas systématique d'un jour que...
Okay, c'est de la création.
C'est ça. Ça dépend de... C'est vraiment beaucoup l'état d'esprit. Est-ce que je suis en état d'être capable de composer quelque chose? Si j'ai la tête pleine de choses, il n'y a rien qui va sortir.
Oui, oui. Mm-hmm. Et comment on devient chef de chœur, Rémi Saint-Jacques?
En dirigeant un chœur.
OK, faut le faire.
C'est sûr qu'il y a des techniques qui existent Donc, ça, c'est quand même relativement récent. De plus en plus, aujourd'hui, on en parle là, des programmes de direction chez l'Alliance chorale du Québec qui ont à chaque été une semaine intensive qui appelle le programme de formation des chefs de chœur. Puis ça, c'est tout le monde qui peut aller là. Bon, c'est sûr que ça prend un préalable, une connaissance de
base musique.
De la musique, de la lecture, ouais. Tout ça. Parce qu'après ça, on apprend des techniques de comment diriger un chœur parce que ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas.
Bien, je sais pas. Ça a l'air simple, vous pensez?
Bien...
Pour quelqu'un qui connaît... Mais pas du tout la chorale, le milieu de la chorale. Je sais pas, il me semble que diriger un groupe, premièrement, là, ça demande une psychologie certaine. Mmh. Et puis aussi un talent pour communiquer, il faut être pédagogue, j'imagine.
Il faut être pédagogue. Diriger, c'est être enseignant. Ça prend une certaine pédagogie. Et c'est pour ça qu'il existe justement, il y a des programmes de maîtrise. Donc, j'ai fait la maîtrise en direction chorale à l'Université de Sherbrooke.
Ah oui? Oui, oui. Il n'y a pas de bac, mais il y a une maîtrise.
Il y a une maîtrise.
Ah bon?
Mais pour la maîtrise, il ne demande pas nécessairement un bac en direction. Il demande une certaine expérience. Mais si ça a été juste d'avoir dirigé une fois ponctuellement un ensemble, ça compte. Puis après ça, bien, il nous encadre avec différents éléments techniques pour être capable de peaufiner notre langage, mm-hmm. de peaufiner notre compréhension de la musique. Parce que diriger, c'est une chose, mais il faut comprendre quel genre de musique qu'on dirige pour pouvoir communiquer des informations à ce moment-là.
Alors, la maîtrise, est-ce que ça fait partie d'un parcours traditionnel pour une personne qui voudrait faire ce métier-là, là, quelqu'un qui nous écoute puis qui pense, qui se dit « Ah, j'aimerais ça, moi aussi, être directeur ou directrice de chœur. »
Je dirais que ça peut aider. C'est parce que souvent, mettons au Québec, ce que je comprends, beaucoup de gens ont appris ce qu'on dit « apprendre sur le tas ». Ils ont été mis dans une situation, puis ils ont développé leur langage, leur propre langage de direction pour être capable de diriger un chœur. La maîtrise, déjà, si mettons quelqu'un qui a déjà eu 10, 15, 20, 30 ans d'expérience de direction chorale, sans avoir fait de maîtrise, il peut s'en sortir. Mm-hmm. Mais en faisant la maîtrise, ça permet d'ajouter juste plus d'outils dans la boîte à outils, ça permet de recadrer, puis ça demande quand même un bon niveau d'humilité.
Oui.
Quand même. Parce que c'est pas évident si on a développé potentiellement des mauvais plis, puis on arrive, puis là, on se fait dire OK, c'est plus comme ça, que ça serait mieux pour mieux expliquer. C'est plus difficile à ce moment-là. Mais quand on parle de rien, puis qu'on fait un parcours, on se rend jusque-là sans avoir eu autant d'expérience comme moi j'avais, bien, ça, c'est plus facile à apprendre.
Oui, mais ça demande l'ouverture d'esprit. Si on veut avancer, si on veut évoluer, si on veut être de plus en plus performant, si je peux dire, faire bien son métier, il faut aussi être ouvert à ce qu'on nous dit. Là. Il y a des personnes qui ont plus de métier que nous qui peuvent nous aider. Si on se ferme, on va pas loin.
C'est ça. C'est pour ça que je dis, ça demande quand même un bon niveau d'humilité. Il faut être capable de se dire, OK, je suis là pour apprendre. Il y a des éléments que peut-être je connais pas, peut-être que je pense savoir si c'est peut-être la bonne ou pas la bonne chose, mais faut accepter que faut se refaire corriger.
Et vous, vous disiez tantôt, Rémi, que il y a certaines personnes, des chefs de chœur qui apprennent sur le tas, mais pour être engagé par une chorale, faut avoir un certain métier, là, faut avoir des connaissances.
C'est sûr que ça aide. Mais quand même, dans le monde chorale au Québec, là, on est d'accord, je pense qu'il y avait au-dessus de 1000 chorales au Québec. Il y avait un gros chiffre, à quelque part, selon les statistiques. Ça reste à voir, là, mais à travers le Québec, on s'entend. Là. Et la majorité des chœurs, ça reste des chœurs amateurs. Donc, ce n'est pas nécessairement des musiciens qui s'en vont là. C'est du monde qui aime... Ils viennent là pour chanter parce qu'ils aiment chanter. L'esprit collectif, de faire bouger les choses, faire de la musique ensemble. Donc oui, ils vont aller chercher quelqu'un qui est capable de diriger, mais ils ne vont pas nécessairement demander « OK, on veut absolument quelqu'un qui a une maîtrise, un doctorat ou peu importe. » Tant qu'une personne est capable de diriger, de mener un groupe à sa manière, à ce moment-là, le groupe va s'adapter au chef et vice-versa.
Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans le rôle de chef de chœur?
C'est de recevoir le son du cœur. C'est...
Les voix.
C'est sûr que ça a l'air drôle à dire. Il y a quelque chose de très humain dans tout ça.
C'est sûr.
Mais le fait qu'on soit toutes synchronisées ensemble, il y a quelque chose de vraiment spécial. Puis.
Les bénéfices d'être dans une chorale, quels sont-ils?
Bien, ça réduit le niveau de stress.
Oui, c'est thérapeutique.
C'est très thérapeutique. Autant que
Chanter.
Autant que oui, il y a un travail à faire, il y a une certaine étude à faire pour dire, bon, il faut arriver préparé, faut mettre tout ça ensemble. Mais une fois qu'on est là, puis on fait la musique, puis on sait notre musique, c'est gratifiant. c'est extrêmement gratifiant, c'est thérapeutique, ça crée des liens, des liens d'amitié. Il y en a, mm-hmm. mettons, qui se font des nouvelles amitiés dans
le cœur. Ça devient presque un club social par
peut
moment.
Ça peut être un club social, effectivement.
Faut faire attention parce que ça peut parler beaucoup pendant les répétitions.
Oui, il faut faire la discipline
faire
quand même.
Faire la discipline, ça doit être quelque chose qui vous dérange un peu.
Bien, ça fait partie du métier. Il y a différents niveaux de discipline, on s'entend, mais ça dépend. Ça dépend des niveaux de cœur, puis c'est quoi qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Il y a des cœurs, ils veulent que ça soit un club social, puis on fait de la musique ensemble. Il y a des cœurs que, oui, il y a un minimum d'interaction, mais on se dit, OK, on a un répertoire, mais parce qu'on a un concert qui s'en vient, puis il y a des gens qui vont payer pour venir nous entendre.
Alors, il faut être bon.
Oui.
Il faut être prêt, il faut être bon.
Il faut être prêt, il faut donner le mieux qu'on peut.
Et est-ce que tout le monde peut être dans une chorale, vous diriez, Rémi Saint-Jacques?
Moi, je pense que oui, pour plusieurs raisons. Vu qu'il y a différentes forces de cœur, c'est ce qui est le fun, c'est que selon les besoins de la personne, dépendamment de ses connaissances qu'il a, il va choisir le cœur qui va être bon pour cette personne-là. Mm-hmm. Quelqu'un qui aurait, par exemple, jamais chanté dans un chœur de sa vie, il ne va pas nécessairement aller dans un chœur où est-ce que tous les musiciens, tous les choristes savent les, puis qui font vraiment du gros répertoire complexe. Cette personne-là, ça va peut-être créer une empreinte légèrement traumatisante. Il existe des chœurs où est-ce que il y a des chœurs pour commencer. Ils vont dire, bon, on va aller avec ça. C'est sans obligation. Il n'y a pas d'audition. On est là pour s'amuser. Puis après ça, il peut avoir une évolution. Puis on peut voyager d'un chœur à un autre en fonction des goûts, des besoins, ouais. des goûts musicaux aussi, parce qu'il y a différents styles de musique par différents chœurs. Mm-hmm. Donc, c'est important de faire qu'est-ce qui nous interpelle.
C'est sûr, parce qu'il y a quand même des répétitions. Il y a un engagement. Là. C'est du sérieux faire partie d'une chorale.
C'est un engagement, oui, effectivement. Mais c'est un bon investissement aussi.
Absolument. Mm-hmm. Et pour faire le bon choix de la chorale, j'imagine qu'il y a le site de l'Alliance des chorales qui existe.
Oui, l'Alliance chorale du Québec. En allant sur ce site-là, il existe justement un onglet, mettons, pour chercher tous les chœurs au Québec. Et il y a toute une liste par région administrative, par ville. Mm-hmm. Ils ont une courte description de certains. Ils ont une page Facebook, un site web. On peut tout aller chercher les informations puis contacter les personnes directement.
J'imagine qu'il faut passer par un processus d'audition. Moi, en tout cas, j'avais chanté. Je me souviens, avant d'être acceptée dans la chorale Allegro, celle que vous dirigez maintenant.
Oui. Il y a certains chœurs qui ont un processus d'audition, mais c'est souvent plus pour entendre la voix de la personne. C'est pas nécessairement pour dire, OK, tu vas être prêt à faire tel... C'est pas nécessairement un rôle comme à l'opéra. C'est surtout, moi je vois ça plus comme un classement de voix.
Ah oui.
Savoir c'est où est-ce que la personne se sent le plus confortable à chanter.
Puis pour le pupitre, là, savoir où la personne va faire pupitre elle va faire partie.
Exactement.
Oui, oui, OK. Ouais.
Puis c'est important parce qu'après ça, bon, il peut y avoir des ajustements. Si mettons quelqu'un qui a un petit peu moins d'expérience, mais là on essaie des choses. Mais après ça, oui, c'est vraiment pour que la personne se sente à l'aise à la bonne place.
Parfait. Mm-hmm. On écoute Noël Nouvelet.
Thank you.
Oui, bravo, Noël Nouvellet, tiré du spectacle, non pas celui de cette année, mais celui de l'an dernier, toujours dirigé par Rémi Saint-Jean, qui est avec nous en studio pour nous parler de son métier, du plaisir de faire partie d'une chorale et puis des bienfaits aussi. Vous avez dit que c'était thérapeutique, c'est un antistress, faire partie d'une chorale, c'est un plaisir. Et si les gens se disent « moi, j'ai pas la voix pour faire partie d'une chorale », qu'est-ce que vous dites à cette personne-là?
Ils ont plus de voix qu'ils pensent.
Oui, ils ont plus de voix qu'ils pensent.
Parce que souvent, chanter, ce qui est particulier, c'est que c'est très personnel. Et c'est ça, ça implique de ben, c'est soi-même qu'on se met, façon de parler, se mettre à nu devant le monde.
Mais c'est moins gênant quand même parce qu'on est ensemble. On est un groupe.
C'est ça que je dis justement okay. À des nouveaux arrivants qui ne sont pas sûrs, mettons, qu'on veut essayer de recruter. Puis dire, ah, je ne sais pas si j'ai de la voix pour chanter dans un chœur. Parce qu'ils pensent qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut qu'il y ait une voix absolument extraordinaire
ou hors
du commun pour chanter dans un chœur. Mais non.
C'est pas le cas.
Non, la beauté de la chose, c'est justement le fait d'avoir des voix différentes. C'est ce qui fait un son particulier. Puis il n'y a pas un chœur qui sonne pareil. Mm-hmm. Et même au sein d'un même chœur, quand il y a certaines personnes, mettons, qui quittent, puis de nouvelles qui arrivent, ben, le son, il change. C'est très subtil, mais il y a un changement quand même.
Et vous avez une oreille particulièrement développée, là, alors vous l'entendez rapidement. Mm-hmm. Et est-ce que c'est toujours le même problème des hommes qui sont moins nombreux dans les chorales? Vous êtes toujours à la recherche de voix masculines?
En tous les cas, c'est un problème mondial, ça.
Pourquoi, vous pensez?
Oh, j'ai essayé de rechercher là-dessus. J'ai pas trouvé beaucoup de réponses. Peut-être que ça les interpelle moins. Ça peut être culturel.
Pourtant, il y a plein de gars qui chantent. Là. Je pense à Daniel Bélanger, Richard Séguin. Ils font pas partie de chorale, mais il y a des voix masculines magnifiques là, qui ont décidé de faire le métier de chanteur.
Tout à fait. Mais je pense qu'il faut distinguer justement le fait d'être chanteur puis d'être choriste. D'être chanteur mm-hmm. soliste et être choriste.
Oui.
Et je pense que ça peut être intimidant de justement de voir, d'entendre ces chanteurs-là qui ont des voix magnifiques, puis après ça, les gens s'auto-flagellent, disent « Ah, ben j'ai pas une voix comme ça, je pourrais pas chanter. »
Ils sentent imposteur un peu.
Oui, puis pourtant, dans un cœur, c'est ça qui est merveilleux, c'est beaucoup plus accessible mm-hmm. qu'on pense. Puis ben, déjà, dans les bienfaits, ça a l'air drôle et un peu ironique à dire, mais ceux qui ont, mettons, moins de confiance en eux, mais ça booste la confiance
en
soi.
Ah oui, hein? Oui.
Oui, absolument.
Et il y a des gens là, pour qui ça devient le centre de leur vie, là, faire partie d'une chorale. Il y en
absolument.
A qui sont qui font partie comme Allegro. Là, je ne sais pas c'est quoi le nombre d'années pour une certaine choriste ou un certain choriste, mais quand tu embarques dans un chœur, habituellement, tu es là pour rester des années et des années et des années.
Absolument. Mais j'ai un cas comme ça. J'avais un nouveau choriste, Monsieur Basse. Et
lui... Monsieur Basse, c'est son pupitre, la basse?
Il est dans les basses,
OK, ouais. Je pensais que
c'était... Non, c'est pas son nom. il est arrivé dans cette session-ci, justement. Et lui, il avait l'habitude, il était capable de chanter seul, mais il n'avait jamais chanté en chœur. Mais il avait quand même une certaine connaissance de la musique. Et là, il s'était dit, sinon, ça serait bien d'essayer ça. Mais au début, il était vraiment pas sûr. Mais il est passé proche de quitter à plusieurs reprises parce qu'il était tellement intimidé par la chose. Et que finalement, j'ai dit, gars, reste quelques semaines juste pour donner une idée. Parce que quand on commence chant chorale, juste une répétition, ça suffit pas pour dire vraiment si on aime ça. C'est quelque chose c'est un goût qui s'acquiert.
Ouais.
Faut prendre le temps. Puis après ça, aujourd'hui, il veut rester. Hein.
Alors, si vous avez envie de voir une chorale à l'œuvre, ça se passe aujourd'hui avec le chœur Allegro. Vous allez être au Complexe des Jardins?
Effectivement, au Complexe des Jardins à 19h.
Qu'est-ce que vous allez chanter, entre autres?
De mémoire, on a quelques chants traditionnels de Noël, le Promenant en traîneau, entre autres. Vite de même, je ne me rappelle pas par cœur, j'en ai trop dans la tête.
On y sera. À compter 19h, dans la très belle place de Noël.
Oui, juste en face
du Complexe des Jardins.
Juste en face de la fontaine, à côté du carrousel.
Alors, je suis gênée. Pardon, je suis en train de perdre la voix devant un chef de chœur. Alors, Rémi Saint-Jacques, merci beaucoup. Puis, joyeux Noël.
Merci, joyeux Noël.